Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Swear. On va pas être Daniel Cormier, Stipe Miocic. Bonjour mon cher Russ, comment ça va?
Ça va.
Là, c'est la preview du main event pour le titre heavyweight à l'UFC 252, Stipe Miocic, Daniel Cormier 3. Premier combat, juillet 2018, DC s'impose par KO au premier round. Deuxième combat, août 2019, Miocic s'impose par TKO au quatrième round. Troisième combat, août 2020, ça y est, on y est. Mais bien malin.
Ouais, qui pourra dire. Il y a tellement de trucs là.
Tellement d'inconnus. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on va faire deux podcasts. Un dédié à Daniel Cormier. Quelles sont les clés pour que DC puisse s'imposer? Et ensuite, donc là c'est sur DC, on verra les clés pour notre cher Stipe Miocic. Parce que ce qui est sûr, on en parlait avec Rust avant le podcast, c'est que le combat, celui qu'on va voir, si les deux combattants sont bien évidemment intelligents et ont tiré un petit peu les enseignements des deux précédents duels, sera bien différent de ce qu'on a vu en 2018 et 2019.
Ouais, mais en fait, il y a l'intelligence, mais il y a aussi ce que tu disais avant en off aussi, et ce à quoi je suis carrément d'accord, c'est que il y a l'intelligence de combat, c'est-à-dire adapter le game plan quand tu vois quelque chose a marché, pas marché. En fait, là, ils n'auront pas le choix, je pense, que de me combattre différemment, parce que Cormier, eh ben, de son côté, on va en parler de lui en premier, de son côté, je pense que maintenant, il sait que Miocic voit comment le battre.
Ouais.
Et Miocic, je pense qu'il se dit... Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai combattu comme ça. Le premier, je pense qu'il s'est fait surprendre. Mm-hmm. Le deuxième, on va y revenir, mais disons, je pense qu'il a été un peu...
Non, je pense qu'il a été, pour la première fois de sa carrière, il était un peu suffisant et un peu trop sûr de lui. Daniel Cormier.
Dans le deuxième combat?
Ouais.
Ah, je sais pas.
Bah, je pense, tu vois, tu gagnes les deux premiers rounds, tu fais un petit peu de lutte, mais tu lui roules dessus. On parle quand même de 181 coups de nez pour Daniel Cormier. Frappe significative. C'est le record de l'histoire en UFC chez les heavyweights et il a perdu le combat. Donc, tu vois, t'es dans une situation où tu utilises un peu ta lutte. Clairement, tu le martyrises.
Ouais.
Même debout, tu domines et tu te dis, bon, bah, le premier combat, je l'ai quand même mis KO au premier round. Là, j'en fais un peu ce que je veux. Deuxième round. Mineur, Miocic et grappille, mais tu domines toujours. Donc, tu sais, t'as ce petit sentiment de te dire, bah, finalement, je suis inarrêtable.
Après, en fait, je me dis, y a ça, mais il y a aussi le fait que, en fait, le game plan de Cormier était parfait pour Miocic, mais c'est aussi parce que Miocic a vraiment, enfin, il a pas combattu intelligemment, en fait. Mm-hmm. Et c'est pour ça que,
bah. Ah, mais honnêtement, tu trouvais que sur le deuxième combat, plus les rounds avançaient, moi, j'étais serein pour Daniel Cormier.
Moi, je sais pas, parce que avant qu'il trouve son liver shot, ouais. Miocic, je trouvais qu'honnêtement, Cormier vraiment avait toujours un petit peu d'avance.
Ah oui.
Parce qu'en fait,
je trouvais qu'il avait de l'avance, mais ça se réduisait petit à petit.
Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, parce que moi, j'avais vraiment l'impression que de part aussi un peu la faute de Miocic, qui, en fait, le truc, c'est qu'au début du combat, il y a eu la lutte, et ça, clairement, bah, après, il y a aussi le fait que Daniel Cormier l'a dit. Pour le deuxième combat, il a vraiment pas pu beaucoup s'entraîner pour la lutte parce qu'il avait un problème au dos. Donc, mais ça l'a pas empêché, comme on l'a vu, de mettre au sol Miocic de façon très très claire et de le dominer au sol. C'est-à-dire que pour une grande partie du premier round, ben après un énorme takedown comme il a l'habitude de le faire, il l'a fait contre Barnett, Gustafsson, Anderson, etc. il a mis Miocic au sol et vraiment il l'a dominé. C'est-à-dire que Miocic sur son dos, franchement, il proposait rien. Il n'était pas dangereux, c'est-à-dire que pas de tentative de soumission, il n'était pas. Ses tentatives d'évasion étaient franchement. Elles n'étaient pas vraiment efficaces. Alors oui, il a fini le premier round debout et il s'en est sorti. Mais disons, j'ai l'impression que si Cormier avait voulu le maintenir au sol, il aurait pu. Mmh. C'est simplement que bon, bah voilà, ça s'est fait un petit peu. Il y a eu des scrambles, il s'est relevé, bon, ça s'est fait. Mais si vraiment le game plan de Cormier était de le maintenir au sol, je pense que Cormier le pouvait. S'il avait la volonté de le faire, il pouvait. C'est seulement que il a vu qu'il pouvait le mettre au sol. Et puis après, en fait, il a vu qu'il avait du succès debout. Et voilà, en fait, pour moi, c'est un des trucs qui, c'est un mystère. C'est vraiment extraordinaire. La manière dont a combattu Miocic, je ne comprends pas. Parce que le fait de les premières secondes du combat contre Daniel Cormier dans le deuxième combat, il est magnifique. Il est vraiment, il se déplace, il est relativement léger, il est à bonne distance, il est varié dans ses attaques, il place des superbes genoux en interception, il met des low kicks, il met des bons jabs, il se déplace bien. Et en fait, je sais pas. C'est comme si quand Cormier commence à se mettre en marche, il commence à le toucher parce que Cormier a travaillé en volume.
Ouais. Et mais quand il se faisait toucher aussi.
Il se faisait toucher aussi, mais beaucoup moins nettement. Parce que franchement, en fait, Cormier, il avait un truc, il avait une manière de combattre là dans le deuxième combat qui était tellement peu académique. C'était des très gros mouvements de buste où, en gros, il sentait Miocic et des grands mouvements de buste où quand Miocic répond, en fait, il arrive à rouler un peu avec les coups. C'est-à-dire, quand il y en a un qui arrive, il déplace un peu sa tête, comme ça. Enfin, il se fait jamais toucher vraiment clean. Il a une manière de combattre. Ça fait pas boxe de l'homme ivre non plus, mais il y a un petit côté, quoi. Vraiment, des énormes mouvements de buste, de tête, de trucs où il se... Et en fait, comme Miocic, je sais pas si c'est parce qu'il a été un peu étonné par ce style de combat ou un peu matrixé, j'en sais rien. Mais quand Cormier a commencé à se mettre un peu en route, Miocic, il s'est planté les deux jambes au sol. Les appuis un peu légers, les changements d'angle, les trucs comme ça, les déplacements, on oublie. On reste debout, comme ça, on bouge plus, même plus de mouvement de tête, même plus de diversité dans les attaques que de l'anglaise. Et là, il s'est fait dominer, je trouve. Quand ça a été anglaise contre anglaise, j'ai trouvé que Cormier, avec son style vraiment un peu étrange, parce qu'il y a vraiment que lui qui met les mains comme ça, qui parle les trucs, des grands mouvements de buste comme ça. Mais Cormier,
après, pour le coup, ça fait partie d'un. C'est quand il utilise ça, Cormier pour Miocic, c'est horrible.
Mais oui, mais c'est horrible parce que Miocic, le fait entre guillemets n'importe comment. C'est-à-dire que déjà, le fait qu'il fasse que de l'anglaise et quasiment que à la tête, forcément, quand t'as un mec, tout le monde, ceux qui ont déjà boxé avec genre dans des salles, t'as un mec qui arrive qui a jamais fait de boxe, et quand il défend les coups, il est comme ça, c'est insupportable. Tu peux le dépasser si tu veux, mais c'est vrai qu'en fait, tu mets un coup, le truc est paré, c'est insupportable.
Mais après, Cormier a fait ça toute sa carrière aussi. Et ça a gêné aussi John Jones.
Oui, complètement, complètement. Mais c'est pour ça que c'est vraiment beau de la part de Cormier, mais. Si Miocic fait que des coups en anglaise et à la tête, c'est clair qu'avec avec cette défense un peu chelou de Cormier et puis ses mouvements, il aura beaucoup, beaucoup de mal à dépasser Cormier. Et c'est uniquement dans les moments où, il y a un premier, je crois que c'est au premier round, il arrive à placer ce fameux genou interception. Il est magnifique. Et franchement, s'il avait continué comme ça, je pense qu'il aurait largement pu gêner Cormier. Pendant le combat, c'est plus Cormier qui mettait des low kicks plutôt que Miocic, ce qui est quand même extraordinaire.
Même d'ailleurs au premier combat.
Et même au premier combat. Et ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Alors peut-être qu'il a un problème aux jambes ou tibia ou j'en sais rien, mais un mec qui fait beaucoup de mouvements de buste, un des trucs qui marche très très bien, c'est les gros low kicks de port ou même les middle ou les high kicks. Alors les middle, c'est peut-être un peu plus risqué parce que, Cormier peut les choper. Mais au moins des low kicks, et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'en a pas fait. Enfin, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait d'autre que de l'anglaise et à la tête. Ça me dépasse totalement. Parce que les rares moments où il a été soit à bonne distance, c'est-à-dire que quand il se jetait pas bêtement sur Daniel Cormier en avançant et du coup en se faisant choper en clinch, etc., les moments où il se déplaçait un peu léger et où il diversifiait ses attaques en termes de niveau, c'est-à-dire les rares fois où il a mis des low kicks ou des genoux, ça passait, ou alors, et évidemment, la séquence de finition où il met les coups au foie, c'est passé crème aussi. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait autre part que dans les dernières secondes après sa séquence de finition ou au tout début des rounds. Ça me dépasse complètement. Je pense que ça a à voir avec le fait que Cormier a un style qui doit être très dérangeant, en fait. Et je pense que Cormier, avec son espèce de truc très original, il te désarçonne. Mais, même s'il se désarçonne et même si ça reste quand même Daniel Cormier, énorme monstrueux client, Bah, en fait, moi, je suis un peu déçu parce que j'aurais envie de me dire, bon, c'est quand même Stipe Miocic, mm-hmm. c'est quand même recordman de défense de titre, c'est quand même un des plus grands de tous les temps. Et il se fait, entre guillemets, posséder mentalement et au niveau du game plan simplement parce qu'il n'est pas capable de varier. Et je comprends pas, en fait.
Donc, en ayant eu ça, parce qu'on revient quand même à DC.
Bah, c'est vrai. mais t'inquiète, on aura d'autres trucs à
après
dire.
Après avoir fait ça, quand même. Oui. Parce que notre cher DC, donc, premier combat, il gagne par KO.
Ouais.
Deuxième combat, là, il menait jusqu'à, justement, qu'il se fasse
ouais.
exposer encore une fois avec ce foie, parce que ça l'a suivi. Si vous avez suivi le podcast, justement, sur le combat et les enjeux pour le statut ou non de Gote Heavyweight de l'UFC ou Gote Heavyweight tout court, eh bien, Cormier, ça fait très longtemps qu'il a ses problèmes de foie, ça le suit depuis les Jeux Olympiques. Il y a eu ce fameux KO face à John Jones, et puis le peu de combats où il a été dans le rouge, il y a aussi ce combat contre Stipe Miocic, bien entendu, ça venait de ses frappes à cet endroit-là. Et là, la grande question, c'est va-t-il réussir à résoudre ce problème-là, sachant qu'en plus, avec aussi sa manière de défense en striking, ça peut être compliqué parce qu'il a fait ça toute sa carrière.
Absolument.
Ça dérange énormément les jabs des mecs, mais c'est vrai que pour votre dernier combat en carrière, quand vous avez plus de 40 piges, c'est très très compliqué de drastiquement tout changer, et surtout quelque chose qui a marché à chaque fois. Enfin, à chaque fois, sauf à deux reprises.
Amen. Honnêtement, et c'est là le point le plus intéressant, je trouve, de ce combat, c'est parce que en fait, maintenant que Miocic, là, je pense que c'est bon. Enfin, il a compris, tu vois. Enfin, j'espère.
T'imagines, on peut pas.
Mais c'est, en fait, j'ai peur de ça.
Ouais.
Mais ce sera pas possible.
Non.
Mais en fait, c'est là. Tu touches au nœud du truc. C'est-à-dire que voilà pourquoi ça peut pas se passer pareil que les combats précédents. C'est que là, Miocic, il a compris que c'est avec les coups au corps et la diversité des attaques qu'il allait dépasser complètement Cormier.
Et Cormier aussi, pour le coup, je
pense. Cormier, son style comme ça, avec des grands mouvements de buste, c'est génial, comme un mec contre un mec contre Miocic, qui change pas, qui fait que des frappes à la tête. Sauf que là, il est pas bête, et Cormier sait que de toute façon, maintenant, Miocic, il va être en mode, je comprends où je dois frapper, je comprends comment je dois aborder le striking pour te dépasser, et je ferai plus les mêmes erreurs. C'est impossible que Cormier reprenne un peu son espèce de truc avec les, parce que voilà, en fait, ce que disait Guillaume, c'est super quand t'as un mec qui jab beaucoup, qui est très à la tête, qui vise ta tête avec de l'anglaise. Le problème, c'est qu'avoir les bras comme ça, et pareil, les jabs de Cormier, ils sont bons et intéressants, mais voilà, il fait un espèce de truc comme ouais. ça, où, c'est-à-dire que ça ne protège rien. Enfin, quand on vous dit quand les professeurs d'anglaise ou même de taille, de n'importe quel sport de combat, de full contact, vous disent de façon traditionnelle, tu colles tes coudes et tes bras au corps pour justement avoir le plus de couverture possible et protéger tes côtes flottantes, ton foie, etc. Ben, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est par là que les KO peuvent venir. Mm-hmm. Et puis aussi que du coup, ça crève petit à petit. Et je vois très très mal Cormier continuer, en fait, à avoir ce truc très très large où il laisse mm-hmm. tout complètement ouvert parce qu'il sait que c'est à cause de ça qu'il s'est fait prendre.
Mais le fait de s'entraîner avec George Foreman qui faisait ça aussi, moi je trouve que c'est pas non plus hyper rassurant, même si bien évidemment George Foreman voilà.
Ouais, c'est vrai que c'est encore autre chose parce que l'anglais, enfin disons, c'est George Foreman et puis c'est en anglais pur, c'est une manière différente d'approcher le combat, mais c'est vrai que là, bah en fait on se dit, vu que Cormier sait que Miocic va venir probablement au corps, ouais. qui va probablement diversifier ses attaques, mais comme tu l'as dit, que je vois très très mal Cormier changer drastiquement de style comme ça en un seul combat.
Il peut peut-être le parfaire, hein. Parce que c'est pour ça, pour moi, qu'il y a eu ses entraînements avec George Foreman. En gros, il a été voir un peu le maître de ça et lui a dit, bon bah...
Ouais, mais...
Après, c'est
très intéressant, mais le problème, c'est que est-ce que George Foreman a déjà pris des low kick ou des middle? Enfin, c'est compliqué.
C'est
de toute façon, c'est toujours bien d'acquérir de la connaissance, mais je me dis, les genoux qu'a réussi à placer Miocic, ouais. et les middle aussi, ben ça fait mal quand mm-hmm. même. Et dans un enchaînement où Miocic... lui-même, c'est, mettons qu'il ait progressé sur, tu sais, jouer avec les mains de l'adversaire, ouais. etc. Tu sais, mettons qu'il fasse une spéciale box style. En gros, il te chope les mains, boum, et il vient te mettre les coudes, les genoux, etc. C'est quand même pas évident à appréhender. Donc, en fait, je me dis, premièrement, il y a déjà le fait que Cormier l'a dit lui-même, je vais mettre l'accent sur la lutte. Et en fait, bon, évidemment, c'est toujours un peu des
avec la petite cage, bien évidemment.
Exactement, qui fait une grosse différence. Et donc, en fait, je me dis, bon, même s'il travaille avec George Foreman, je vois quand même très, très mal Cormier approcher ce combat en se disant, je vais revenir avec cette défense-là en laissant bien tout ouvert. Simplement, je serai un peu plus affûté, donc je réussirai à les parer quand il faut, etc. Je vois mal ça se passer. Je pense que ce sera un trop gros risque pour Cormier. D'autant plus que s'il n'a pas ce mal de dos et qu'il a pu faire son camp d'entraînement comme il le voulait, d'autant plus avec le succès qu'on a vu qu'il pouvait avoir au premier round de leur deuxième combat. Et en plus, comme c'est une petite cage, je vois très très mal Cormier ne pas réorienter complètement son game plan pour ne pas faire lutte, 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 lutte et relutte.
J'espère. Mais en a-t-il les capacités physiques ?
Dans le sens, est-ce que son dos le dérange trop?
Dos le dérange trop. Là aussi, l'autre gros point qu'il avait évoqué dans sa défaite, c'était effectivement...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Il dit, pour la première fois de ma carrière, j'ai été fatigué.
Ah ouais?
Et c'est justement, pour lui, c'était pas... Il a jamais parlé justement de ses problèmes, le fait que bah, il soit fait toucher au foie, et que c'est vrai que c'est un problème qui le suit quand même. Et pour lui, clairement, c'est pas un souci, mais pour lui, c'était vraiment, je me suis fatigué. Et à partir du moment où je me suis fatigué, parce qu'il y a quand même eu, mine de rien, ce takedown aussi de Stipe Miocic, lors du deuxième combat. Et pour lui, c'était vraiment ça, le gros point. Et il a dit, là, j'ai vraiment fait un travail spécifique sur ma condition physique pour justement ne pas, à un moment donné, baisser en régime.
Ben, ça va
et
être intéressant.
C'est ce qui me fait un petit peu peur, parce que c'est vrai qu'aussi, on en parlait. Daniel Cormier a quand même cette tendance, je trouve, à toujours, peu importe l'adversaire, et je pense notamment là au combat contre Anthony Johnson, ou même si t'as quelqu'un qui est extrêmement dangereux debout, il attend toujours d'être dans le rouge ou qu'il y ait une alerte pour utiliser sa lutte.
Ouais.
Et là, bien évidemment, c'est le dernier combat de sa carrière, donc j'espère vraiment pour lui. Enfin, j'espère pour lui. Je suis pas supporter de Daniel Cormier au Stipe Miocic, mais je me dis quand même. Faut pas prendre ce genre de risque. Tu vas pas prendre le risque que ton foie te dise bon bah là je suis en train de crever pour tenter le takedown.
Ouais, c'est ça, parce que ben en fait c'est, je sais que c'est contre-intuitif, mais je pense que il a beaucoup moins peur des coups à la tête et des chocs à la tête qu'il ne sait et qu'il est conscient des faiblesses de son foie. Mm-hmm. Et du coup en fait là c'est pas juste un gros frappeur Miocic, c'est un gros frappeur qui a compris qu'il fallait te massacrer le corps en fait.
Et qui est très précis en plus.
Et qui est très précis et durable. Parce que c'est vrai que le fait qu'il se soit crevé Cormier, ben, il y a probablement aussi le fait que, ben, il a dû se rendre compte. Clairement, dès le début, il s'est dit, je vais y aller en volume. Mm-hmm. Il n'a pas fait de frappe où il y va à fond. Il a vraiment pris la décision d'y aller petit à petit. Juste, voilà, il te jab, il te prend de vitesse. Il arrive dans les quartiers rapprochés, il te prend de vitesse en clinch et puis il joue avec tes mains. Hop, il arrive à glisser un jab et t'es pas assez rapide parce que effectivement, Cormier a un avantage de vitesse parce que du coup, il y va moins fort. Et en plus, bah, même je pense que naturellement, il est un poil plus rapide que Miocic. Mais c'est vrai que bon bah même s'il a travaillé en volume, je pense qu'il y a un moment donné où il a dû réaliser qu'en fait Miocic il n'arriverait pas à le mettre KO. Et en fait je reste un peu persuadé, et c'est Dan Hardy qui disait ça, et ben je trouve que c'est intéressant en fait comme théorie, c'est le fait que bon Miocic il avait quand même, à part bon il y a eu Stéphane Struve, mais quand même il a encaissé des, avant le premier combat de Daniel Cormier, il a encaissé des énormes chocs sans vraiment broncher, il n'y avait pas de soucis, etc.
Et surtout contre Stéphane Struve, il y avait eu un hypo juste avant je crois aussi.
Putain mais c'est un miracle qu'il soit pas aveugle, hein, avec tous les hypos qu'il s'est pris dans sa carrière, Miocic. Et en fait, mais il y a la théorie de Dan Hardy, c'était de dire, comme il avait cette espèce d'énorme menton en adamantium, quand il est arrivé contre Cormier, je pense qu'il a dû se dire, Cormier n'est pas un gros frappeur, parce que c'est vrai que même s'il avait mis KO les Bigfoot Silva et dans les mêmes genres de positions, il n'était pas connu pour sa puissance de KO dévastatrice, Cormier. Et donc je pense que Miocic, en fait, entre guillemets, a été un peu... il n'a pas vraiment pris au sérieux le pouvoir de KO de Cormier. Ça se discute, hein, je suis d'accord.
Je sais pas. Mais... Après, le KO, il le voit pas venir. Aussi.
Ah non, il le voit pas venir. Et c'est ça qui fait le KO, c'est qu'il le voit pas venir. Mais il y a des moments dans le deuxième combat où il les a pris de la même manière et il est resté debout. Et
je sais pas ça. Oui, ouais, j'avais
moi,
vu.
Moi, j'y crois. Et c'est un peu la même manière.
Après, t'avais Francis qui était venu 6 mois avant le premier combat.
Ouais, c'est ce qui n'est pas négligeable. Mais en fait, moi, ce qui me fait dire que c'est possible, c'est, je me souviendrai toujours, bah, tu sais, des Bigfoot Silva qui sont capables de faire des guerres avec Mark Hunt et dans d'autres combats, en gros, quand ils s'attendent pas à une guerre, bon bah ils se font mettre KO en 3 secondes, tu vois.
Après, il y avait la TRT aussi pour.
C'est
Big
sûr.
Foot. Ah, je sais.
Mais
pas.
Mais je dis pas que j'y crois nécessairement.
Oui, en mode, ils s'attendaient pas.
Je trouve que ça.
Et c'est vrai que ça a surpris un peu, parce que c'est vrai que oui, d'ailleurs, DC disait en pleine préparation pour cette montée, genre j'ai mis KO mes sparring et tout, et même nous, on était un peu étonnés de se dire. Et finalement, bah, il a réussi quoi. Et c'est vrai qu'il a envoyé quand même des sacrés parpaings. Et puis même là, même le premier combat, tu vois. Et c'est pour ça aussi que DC, je pense, va vraiment mettre l'accent sur la lutte. C'est que même si il gagnait. Moi, je trouve qu'il s'est pris quand même des vrais gros coups de la part de Stipe Miocic. Parce que c'est un moment dans le... Je crois que c'est dans le troisième ou début du quatrième round où il crache un litron de sang, quoi.
En clinch, là
Non, pas en clinch. Non. Non, il crache, crache tranquillement son petit litron de sang. Et tu te dis, wow. Et puis même, tu voyais que les gars commençaient à être quand même bien marqués.
Salement marqués.
Surtout le moment, en fait, le moment où c'était assez impressionnant, c'est, je sais plus, c'est, je crois que c'est le deuxième round, où il y a un hypoke de Cormier qui place un 1-2 sur Miocic. Donc là, t'as Miocic qui commence à reculer, en train de dire à l'arbitre, bon, bah, je me suis peut-être pris un truc, mais t'as Cormier qui va. Et là, il place un énorme uppercut à Cormier. Contre la cage.
Ah.
Et ce moment-là, les deux, ils s'envoient vraiment, tu vois, l'espace de 15 secondes.
Ouais.
C'est assez violent. Et donc, je pense vraiment qu'il est en mode, je ne veux pas revivre ça. Parce que mine de rien, c'est quand même un petit peu traumatisant pour le corps. Donc, il va utiliser sa lutte exclusive.
Moyen.
Là, grosso modo, on est sûr. Et puis, je vois mal aussi faire cette espèce de feinte. Je trouve que ça fait trop, dans le sens où il y a eu les deux premiers combats. Ou même le premier, hein, d'ailleurs, il s'est quand même pris quelques bons coups de la part de Stipe Miocic.
Absolument.
Où t'as les deux premiers combats où tu domines debout, mais tu domines debout. Et là, on va faire écho à notre podcast avec Thomas Diagne, où forcément, quand il y a la lutte, vous réduisez un petit peu toute cette incertitude. Et c'est vrai qu'entre se dire, bon bah tu gagnes debout, mais t'as quand même une marge qui fait que tu prends un certain nombre de coups, tu peux aussi te faire dominer. Ou avec la lutte, t'es à 8 fois sur 10, et à moins que le gars arrive te choper en flying knee ou un truc comme ça...
Ouais.
Il y a quand même très peu de chances que tu te fasses mettre KO. Plus la petite cage aussi qui s'ajoute à ça. Donc on est sur un Cormier qui sera en full lutte face à Stipe Miocic.
Ouais, on espère.
Et ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu comme ça.
Ouais, mais c'est pour ça que ça va être intéressant. C'est pour ça que ça va être encore plus intéressant.
Et tu penses qu'il peut ? Enfin, parce que c'est surtout ça, c'est face à un Miocic qui, du coup, à mon avis, est vraiment préparé pour ça. Là.
Ouais.
Et qui est très bon aussi en lutte.
Et qui est très très bon aussi en lutte. Donc... c'est là où il y a vraiment une inconnue, en fait. C'est vraiment là où il y a une énorme inconnue. C'est que, on va avoir un Cormier qui va probablement être en mode lutte, mais vraiment hardcore. Et un Miocic qui va être en mode, maintenant je sais comment m'y prendre, mais je sais aussi que tu vas arriver en mode full lutte hardcore. Et en plus, ce sera une petite cage, donc qui sera préparé de ouf. Et ça va être vraiment intéressant. Et d'autant plus que, même si Cormier est en mode full lutte, on ne rappellera pas pour la énième fois le Randleman versus Crocop. Ça ne l'empêche pas pour autant de balancer des bons gros parpaings de temps en temps quand il fait des petites feintes, etc. Donc, voire même, ce sera presque, si ça se trouve, là, évidemment, je conjecture, on n'en sait rien, mais si ça se trouve, avec un Cormier qui va être en mode beaucoup plus en face sur la lutte, ça va être, ça se trouve, le meilleur Cormier qu'on ait jamais vu.
Peut-être.
Parce que c'est un mec qui va revenir à ses racines, s'il a, espérons qu'il ait pu avoir un camp d'entraînement, du coup, sans trop que son dos le dérange. Mm-hmm. Mais si c'est le cas, on va avoir un Cormier qui va être en mode retour aux sources, retour à ce que je sais faire de mieux, lutte, clinch, je ne te laisse pas respirer et je vais au contact pour de la lutte. Mais de temps en temps, bien sûr, parce que c'est ce que je préfère faire, hop là, le petit collar tie, je balance des trucs, des machins, et puis voilà, on en est bien.
Et puis l'usage des low kicks quand même serait bien
et
aussi.
Ouais, mais ça c'est incroyable. Le fait que Cormier ait mieux réussi à low kicker, Miocic dans leur deuxième combat, c'est un truc qui me... C'est extraordinaire. Et je pense que c'est de la faute de Miocic, parce qu'il ne l'a simplement pas fait.
Après, ça fait un moment qu'il les utilise quand même, Cormier.
Oui, non, c'est sûr. Mmh. Mais disons, je trouve ça dommage que...
Ah oui, qu'il n'y ait pas eu de retour de...
Sans déconner, je sais pas pourquoi il n'a rien fait. Mmh. Mais en tout cas, Cormier est magnifique. Honnêtement, Cormier, au fur et à mesure de sa carrière en MMA, il m'a de plus en plus impressionné.
C'est clair.
Là, sur ses derniers combats, franchement, c'est un artiste, un mixed martial artist, mais complet et ultime presque. Enfin vraiment, c'est un gars, il est capable de tout parfaitement mixer. Il fait pas rigoler debout, il est très bon dans les transitions. Au sol, on n'en parle pas.
Moi, j'aime pas ses prises de risque.
Oui, évidemment.
Je déteste ça.
On se rappelle de Derek Lewis où il avait tenté le diable avant de se dire « Ok, bon, on y va ».
Mais même Volkanos Demir. Ouais. Tu vas t'attendre de te prendre quelques coups pour faire « Bon, ok ». Il peut y aller directement. Et je pense même, tu vois... Il y a peut-être deux ou trois combats en plus qu'il aurait pu faire dans sa carrière si t'avais pas eu même, tu vois, les moments contre Anthony Johnson.
C'est vrai.
Surtout même le deuxième.
Oh,
deuxième,
ce
il attend de se faire péter le nez pour dire, bon, là, faut peut-être se réveiller.
Allez, on y va. Ouais.
Et surtout, et c'est ça qui est d'autant plus impressionnant, c'est quand il se dit à chaque fois, bon, maintenant, on y va.
C'est fini.
Mais c'est ça. C'est pas comme si le mec était désespéré en mode de Curtis Blades. Enfin, ça, il y arrive aussi, mais Curtis Blades, c'est un peu bon, je suis un petit peu en panique, faut que je tente le takedown. Là, c'est Cormier, clairement. quand il dit « je vais te mettre au sol », il vous met au sol, à part John Jones,
ouais,
et il voit toute proportion gardée Gustafsson, il n'y a pas match. Hein.
Il n'y a pas match, et il est impressionnant.
Et puis même Miocic, combat numéro 2.
Absolument, et puis c'est vrai qu'au sol, il a un... Ok, Derek Lewis, c'est pas le mec le plus ouf au sol, c'est clair. Mais enfin, arriver à le soumettre, c'est quand même. Il l'a soumis dans le combienième round ?
Et c'était premier round ou deuxième.
Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est là
mais
où
t'as une maîtrise. Enfin, Bob, il te bloque les bras, tap, tap.
Et puis, bah, dans le premier ou deuxième round, bon, Derek Lewis, normalement, il est pas encore complètement mort.
C'est clair.
C'est un mec qui est énorme. Il doit cutter, je crois que c'est 8 ou 9 kilos pour être dans les 120 kilos de la catégorie poids lourd. Il est monstrueux. On a vu Alexei Yolenik qu'il avait énormément de mal à le soumettre. Cormier n'a eu aucun mal à le mettre au sol, le soumettre et le contrôler. Et quand on voit du coup ce qui s'est passé ce week-end avec Derek Lewis versus ouais. Olenik, alors peut-être que c'est Lewis qui a changé, peut-être c'est possible, mais n'empêche qu'Olenik n'a rien réussi vraiment à faire de... À part, on ne sait pas, je crois que c'était une Kimura ou je ne sais plus quel était le sens, mais à la fin du premier round qui aurait pu donner un truc.
Grosse tentative, ouais.
Grosse tentative, sauvée par le gong, mais à part ça, bon, bah, les scarfolds, la nuque de Derek Lewis, sans déconner, c'est un extincteur, c'est compliqué de faire quoi que ce soit. Cormier, aucun problème. Mmh. Aucun problème. Pour soumettre, il n'a absolument aucun problème à soumettre les meilleurs assassins de la planète. À part John Jones, à les mettre au sol, etc. Mais bon, c'est John Jones et Gustafsson parce qu'il a un style qui est particulièrement léger et mobile. Et aussi parce que bah, Cormier, comme il avait du succès debout aussi, eh ben, c'est ce que tu disais, il a tendance à y aller un peu à l'orgueil. Et c'est quelqu'un qui est tellement un gagneur ultime dans l'âme qu'il n'a pas envie de se dire, je pense qu'il n'a pas envie de se dire, bon, il est vraiment meilleur que moi là-dedans, donc je vais autre part. Je pense que Cormier, c'est le genre de mec à se dire, j'accepte pas qu'il soit meilleur que moi. Dans quelques domaines que ce soit.
Mais c'est ça le problème. Et ouais. Je pense que c'est ce qui lui a joué des tours. Mm-hmm. Et là, il n'y aura pas ça.
Non, je pense pas.
Impossible. Ses derniers combats de sa carrière, il a aussi eu, en termes de préparation, où là, je pense que par rapport à Miocic, où c'était un petit peu rocambolesque, puisque entre le coronavirus et puis tout ça, avec Cleveland, c'était un peu plus compliqué. Cormier, là, il a quand même pu s'entraîner. On sent que c'est la der parce qu'il y a Rockhold qui est revenu.
Oh.
Cain Velasquez est là aussi, plus tout le reste de la team. Javier Menez, bien évidemment. Et je pense qu'aussi, t'as ce petit...
Ouais, il y a un doux parfum de... on revient entre frères.
Exactement.
Pour la dernière, quoi.
Donc, je pense qu'il va vraiment arriver au top. Et même si, voilà, comme l'a dit Ross, il y a eu ses problèmes de dos précédemment. Et puis, voilà, plus de 40 piges. Donc, forcément, c'est plus que c'était. Mais, voilà, je suis pas inquiet. Et je pense, pour le coup, que par rapport à Stipe Miocic, vous allez le voir dans le deuxième podcast, où je cite Rust... va devoir faire le combat parfait. Bah, Cormier, il a toutes les clés en main, entre guillemets.
Ouais.
Parce que debout, il peut se permettre, à mon avis, sans être en mode je prends des risques, mais tu vois, tu varies un petit peu, tu fais quelques petites feintes de takedown, et puis ensuite, très rapidement, au bout d'une minute, une minute trente, là, ça y est, tu le mets au sol et tu commences vraiment à travailler.
Mmh.
Et s'il fait ça, très, très compliqué pour Stipe Miocic d'y arriver. Mais vous allez voir ça... dans le podcast qui arrive, pour moi honnêtement, Cormier a toutes les clés en main, et en plus il a cette petite cage. Enfin, je veux dire, là tu peux quand même difficilement faire mieux pour lui, dans le sens où Stipe dans des conditions compliquées, lui c'est parfait.
C'est ça. Miocic n'a pas autant de pistes à explorer et à utiliser qu'il n'a pas utilisé avant que Cormier, c'est vrai. Donc
et puis surtout, Cormier, en plus, là, il a été une fois de plus battu dans le domaine où, clairement, il y a des lacunes. Donc, vraiment, là, si il ne savait pas sur quoi travailler, et aussi, ce qui est rassurant, c'est que ça fait plus d'un mois, mine de rien, qu'on ne l'a pas vu en tant que commentateur à l'UFC. Donc, ça veut dire aussi, qu'il est vraiment... Exactement.
Ouais, complètement. Ça va être intéressant. Voilà.
Donc, réponse samedi soir, pendant la nuit de samedi à dimanche, diffusée jusqu'à preuve du contraire sur l'UFC Fight Pass. Souvent, on me demande sur quoi c'est diffusé. Donc là, c'est l'UFC Fight Pass. Je crois qu'il n'y a toujours pas AMC Sport, parce qu'AMC Sport avait réussi un accord last minute pour l'UFC 251. La 252, au moment où nous enregistrons ce podcast, donc lundi, c'est sur l'UFC Fight Pass. Voilà.
Ouais.
Allez, si
allez,
vous
à très vite. Soir.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.